Vous écoutez
RMC. RMC. L'Afterfoot. François Pinet.
De retour dans l'after, il est 23h sur RMC. Merci beaucoup de nous rejoindre sur RMC à la radio, sur RMC Sport, à la télé, avec Jonathan Macardy, toujours là, et Kevin Diaz, bien sûr, pour débriefer ce Monaco-Lyon. Il y a déjà énormément de choses à dire. On va peut-être parler un petit peu de l'arbitrage, messieurs, parce qu'on a parlé beaucoup de la belle performance lyonnaise. On y reviendra avec vous au 32-16. On va parler de l'AS Monaco dans un instant avec Mathieu, qui nous attend d'ailleurs. Mais un petit mot sur l'arbitrage. On est tous d'accord ici pour dire que le carton rouge pour Cesc Fabregas n'était pas logique, n'était pas mérité.
Ouais. Bon, non. Très franchement, sur la, quand tu vois la faute à vitesse réelle, est-ce que pour toi, il y a carton rouge là-dessus ?
À vitesse réelle, non. Mais non. La VAR est justement là pour dire, en tout cas, pour essayer de montrer aux arbitres ce qu'ils n'ont pas vu.
Si tu regardes la faute avec un ralenti.
Ah, mais là, je suis d'accord avec toi.
T'as l'impression qu'il va lui arracher la jambe. Quand tu regardes à vitesse réelle et quand tu vois qu'après, bon, ça se relève, même s'il y a un petit, voilà, il y a quand même un contact, il y a une faute, on va être d'accord, hein, il y a faute. Oui. Mais est-ce que ça mérite un carton rouge? Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que d'avoir cette VAR, en fait, ça dénature totalement l'arbitrage. J'en ai eu ce débat des milliers de fois. Mais le problème, c'est que si t'as la machine qui te grossit, t'as la loupe grossissante, c'est pas possible. Et c'est comme quand t'as un petit bouton, on te met une loupe dessus, t'as l'impression que c'est un cratère. Non. Je suis désolé, c'est peut-être un peu naze comme analogie, mais là, très franchement, sur Fabregas, des fautes comme ça, on en a vu plein. Ça mérite une faute, il y a pas de souci. Tu peux mettre un carton jaune éventuellement.
Mais le pire, c'est que 15 minutes après, il y a Gelson Martins.
Oui.
Il fait pour le coup une semelle. Et là, il maîtrise pas du tout son geste. C'est exprès. Et là, l'arbitre.
Alors après,
il met pas de carton rouge.
Ce qu'il aurait dû faire,
en fait, la mauvaise décision du début. Ouais. Mais en fait, on peut me dire ce qu'on veut. La VAR dénature complètement notre sport et la VAR est en train petit à petit de le changer de façon négative.
Je suis pas d'accord avec toi. Il y a certaines fois,
François,
quand même, Kevin, où
le football
la vidéo a permis d'éviter certaines injustices. Et pourtant, je suis pas un pro-VAR ni un anti-VAR d'ailleurs.
Lesquels?
Quand il y a un but
la main
qui est marqué alors qu'il y a
hors-jeu, la main de la Croatie en finale contre
c'est une injustice qui est réparée si on voit le hors-jeu.
Non, mais le hors-jeu, c'est comme la goal line technologie,
voilà.
En fait.
Moi,
le hors-jeu, c'est la seule chose qui peut être à peu près cohérent, en tout cas sur l'utilisation qui en est faite. Mais aujourd'hui, le football,
je vais juste te donner un élément plus, et t'as totalement raison. C'est les hors-jeu et la goal line technologie, c'est pareil parce que c'est, il y a but, il y a pas but.
Voilà.
Il y a hors-jeu.
Même si Gilbert te dirait que des fois, c'est le pied, c'est l'oreille.
Oui, mais c'est un jugement. Voilà. D'accord? Le mot jugement est important. Là, quand c'est une faute comme ça, tu t'en remets à l'interprétation arbitraire de l'arbitre. Dans le foot, on n'a pas des juges. Tu vois, au tennis, on a des juges qui disent si la balle, elle est sortie, elle est pas sortie. Il y a pas de débat là-dessus. Là, t'as un arbitre qui doit faire parler son libre arbitre. Sa subjectivité, son interprétation.
Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que, en plus, les arbitres, ils n'avaient pas donné carton rouge sur la faute. Il l'a vu, il l'a pas donné. Par contre, quelqu'un qui est dans le quart, attention, on va interrompre un match professionnel.
En plus, ça influence
l'arbitre,
évidemment.
Parce que là, il faut que tu regardes quelque chose.
Oui, ça l'influence.
Ça l'influence, donc. Donc lui, il a la pression parce que
après,
les autres sont dans le quart. Et ils lui disent, ouais, mais là, quand même, t'as vu, c'est dangereux. Et puis en plus, c'est vraiment sur le tendon. Et en plus, il aurait pu le blesser. Mais en fait, c'est pas ça, le football. Le football, c'est un sport d'instant. Et les arbitres doivent juger quelque chose à l'instant. Alors, s'ils ne l'ont pas vu, c'est autre chose. Ils l'ont pas vu. Il l'a pas vu. Donc, ok, à part, je l'ai pas vu.
Bon,
voilà, t'as raté quelque chose de flagrant, tu l'as pas vu. Mais là, tu l'as vu, t'as jugé que c'est un carton. On va te montrer un ralenti 17 fois, mais c'est sûr qu'au bout de la 17e fois, tu vas juger.
Là, quand on voit les images au ralenti, n'importe quel arbitre est obligé de mettre
deux
un carton.
Fois. Est-ce que tu donnes
pas
carton
forcément
rouge,
un carton rouge
fois.
Juste, je précise quand même que Fabregas avait déjà un carton jaune, donc s'il avait eu un carton jaune, il aurait été exclu quand même.
Oui,
voilà.
Mais
non, mais
il avait pas de carton jaune. Il n'avait pas de carton jaune. Le carton jaune, il l'a pris au moment de la faute.
Il l'a pris au moment de la faute et après, il change et lui met le carton rouge.
Voilà. C'est ça, c'est un changement.
Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des implications parce que.
Donc il avait eu une faute, il avait mis carton jaune, voilà. L'arbitre.
Il y a quand même une implication parce que c'est un rouge direct, du point de vue de la commission de discipline. Monaco, qui on sait qu'il y a quelques difficultés de perdre Fabregas, qui leur tenu au milieu de terrain, ça peut les pénaliser sur aller un match ou deux en plus. C'est un début de saison, c'est important de bien commencer. Non, enfin, c'est très pénalisant pour Monaco. Et très franchement, ce carton rouge, on va pas tourner autour du pot. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a jamais carton rouge. Jamais carton rouge, c'est une erreur.
On va demander à Mathieu, supporter de l'AS Monaco, si il retient l'arbitrage de Monsieur Buquet et ce carton rouge ou non. Salut Mathieu, t'as fait le 32-16. Merci d'être dans l'after.
Salut les amis, désolé. Salut Mathieu. Musique, je suis pas loin d'un bar à Monaco.
Lequel?
Tu fêtes la défaite?
Lequel?
Jonathan, la brasserie, je sais pas si tu connais, à côté de la Rascasse.
Oui, bah oui.
Voilà.
Pourquoi t'es, attends, mon gars, c'est 23h, on est en plein été, on est en week-end, va au SAS, va dans un endroit un peu plus agité.
Non, écoute, le SAS c'est trop huppé pour moi, j'ai déjà bossé et tout. Moi, je préfère être dans des endroits que je connais pas ou qu'on me connaît pas surtout, tu vois.
D'accord.
Pour piquer ma colère sur le match de ce soir.
T'as bien raison.
Bah voilà, parle-en justement de ce match, toi, supporter de l'AS Monaco.
Bah, en fait, c'est à double tranchant pour moi parce que il y a une injustice niveau arbitrage, mais en même temps, il y a une injustice aussi niveau mercato et on respecte pas nos supporters. En recrutant toujours pas ce fameux numéro 9 qui va peut-être nous aider à passer le mini palier de
Mathieu,
la relégation. En fait.
T'attends de savoir ce qui va se passer avec Radamel Falcao.
Non, mais je comprends
bien
pas
sûr,
ça en
parce
fait.
Que on adore
bah, en tribune.
Enfin, Monaco, Mathieu, il est adoré Radamel Falcao. C'est un mec qui nous a sorti de situations vraiment périlleuses dans des matchs vraiment importants. Maintenant, il a envie de partir. Moi, je le comprends, je le respecte. Il a une famille, il a envie d'assurer ses arrières.
Non, mais d'accord.
Mathieu. Merci, au revoir, Falcao. Mais par contre, il faut penser à l'avenir maintenant.
Mais l'avenir, les gars, il n'y a pas que ça. Parce qu'on sait qu'ils ont essayé de faire André Silva.
Ouais.
Et que ça ne s'est pas fait avec la visite médicale. Ils étaient prêts quand même à investir une belle somme d'argent sur
le numéro 9. C'est ça que je comprends.
Et le problème, attends juste, le problème du marché des numéros 9, on l'a vu, tu vois, par rapport à Benedetto qui arrive à Marseille, c'est que c'est un marché où les sommes partent. C'est très élevé, les sommes, pour un numéro 9. Qui a sur le marché?
Non, mais
qui a sur le marché?
C'est pas la question.
Mathieu,
un club de football aujourd'hui, c'est pas de la réaction. Est-ce qu'on va comprendre enfin en France que un club de football aujourd'hui, c'est de l'anticipation?
Mais ça, bien sûr.
D'accord. Ouais, donc ils étaient prêts à prendre André Silva. Moi, j'avais même dit ici à l'after, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font. Il y a André Silva, il y avait Soumaoro à l'époque, il y avait Aguilar déjà dans les tuyaux. C'est intéressant. Ouais. Aujourd'hui, t'as l'impression qu'un club qui, je viens de lire cet après-midi, ils ont quand même 220 millions d'euros de budget. D'accord,
c'est
Monaco.
Énorme.
Avec 220 millions d'euros de budget, tu attends de vendre Falcao, quitte à commencer un début de championnat encore catastrophique, après une année catastrophique.
Ils attendent pas,
mais,
Kevin.
Je te dis, mais pourquoi ils
voulaient prendre André Silva?
D'accord, ils n'ont pas pris.
Mais non, le problème,
qu'est-ce qu'ils attendent?
Le problème,
ils attendent le 30 août.
Non, les gars,
il a été blessé, il a joué sur une jambe pendant.
Mais pas ça, c'est pas ça le problème. Non, alors le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que cette année, le marché, il est un peu bizarre. On l'a vu, hein, les mouvements, il y a pas beaucoup de mouvements quand même. On a été très dépendant de ce qui s'est passé sur le marché anglais. Tout le monde attendait un petit peu que le marché anglais s'affole sur la dernière semaine avant la fermeture. Ça s'est pas vraiment affolé. Donc il y a pas beaucoup d'argent l'effet domino. Il y a un joueur qui part et puis ça injecte des caisses un petit peu partout. Là, le problème, c'est que le marché, il stagne un petit peu. Et très franchement, pour un club comme Monaco qui a certes un très bon budget, mais quand tu veux prendre un numéro 9 qui est, tu vois, qui soit une assurance touriste, je veux dire, un numéro 9, t'es sûr, il va arriver en Ligue 1, il va
admettre
Falcao. Non. Un numéro 9 qui va admettre sa quinzaine de buts, et ben, d'une part, ça coûte cher. Monaco a certes de l'argent, mais ça coûte cher. Et d'autre part, t'as de la concurrence d'autres clubs. Donc, c'est un marché qui est pas facile, le numéro 9. C'est pas comme recruter un milieu de terrain ou même un défenseur central.
Tu voulais prendre André Silva, Jonathan. T'as vu jouer André Silva depuis 2 ans?
Vas-y
Mathieu.
Regardez, avant on avait Campos, je veux dire, ils nous trouvaient toujours des
mecs incroyables. À Lille,
ouais, là c'est le haut niveau.
Il part à Lille, il leur fait encore un mercato énorme alors qu'ils vendent Pépé. Enfin voilà, ils arrivent quand même. On sait très bien que Lille cette année, ça va être encore exceptionnel et bravo et merci Campos pour Lille.
Mais il aura jamais recruté. Attends Mathieu, il aura jamais recruté de numéro 9 de très haut standing à Lille. Il leur a pris Léao qui était une belle opportunité et qui a certes montré des belles choses, mais qui a fait 3-4 mois dans la saison.
Et qu'ils ont revendu 35 millions.
Après. Mais un numéro 9, j'insiste là-dessus. Le numéro 9, c'est un poste qui est dur pour recruter.
Bien sûr.
Mais qui aujourd'hui?
Mais ils ont de l'argent, Jonathan.
Mais qui? Alors dis-moi qui.
On parle de Ben Yedder, on parle de Batshuayi. C'est bien ça pour Monaco.
C'est très bien. Mais je vous attends en fait.
Ils attendent dernier avec. Laissez parler Mathieu. Mathieu, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, je disais, moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un joueur pas connu qui débarque en Ligue 1, qui explose tout, un peu comme Pépé à l'époque, un peu comme justement Léao qui était une énorme un énorme potentiel. Voilà, aujourd'hui, en fait, je suis plus surpris. On me parle de Ben Yedder, super. Mais moi, j'aimerais qu'il signe à Monaco parce qu'aujourd'hui, on est en galère de numéro 9. Et pour moi, ça serait génial. Mais j'ai envie d'être surpris en tant que supporter de l'AS Monaco. On a toujours fait venir un petit peu des noms pas très connus, comme à l'époque, un certain Marcelo Gallardo qui est venu à Monaco, qui a tout explosé.
Là, je vais pas être d'accord avec toi, Mathieu. Je pense qu'aujourd'hui, Monaco n'a pas besoin de paris. Des paris, il y en a plein.
Il y en a trop.
Tu vois, moi, je pense, Mathieu, au contraire, que vous devriez vous rapatrier entre guillemets un attaquant sûr, donc un Michy Batshuayi qui je pense a 15 buts dans les jambes en Ligue 1, facile, un Ben Yedder, voilà, moi je pense au contraire que toi tu veux de la nouveauté, moi je prendrais du sûr, et surtout pour Monaco je n'attendrais pas d'avoir un 0 sur 9 ou un 1 point sur 9 en championnat pour ensuite faire encore un panic buy.
Ils le feront pas, je pense juste que le
merci Mathieu, qui est passé dans la salle, on va prendre Cédric dans un instant, un supporter de Monaco.
Je pense juste que pour Batshuayi et Ben Yedder, typiquement, c'est les joueurs, ça va se débloquer maintenant que le marché anglais est fermé. Ouais. Batshuayi qui joue en Angleterre, on attendait de voir ce qui allait se passer pour lui. Ben Yedder, il y avait des bruits.
Oui, il y a encore du temps pour Monaco, mais bon.
Le marché est bizarre cette année. Jonathan, arrêtez de me dire qu'il y a du temps.
Mais le marché, c'est le marché.
Le championnat a commencé aujourd'hui.
Mais c'est le marché. Arrêtez de me dire Monaco, ils peuvent se rattraper aussi en janvier prochain.
Tu sais, quand un joueur arrive, c'est pas comme dans FIFA. Un joueur, faut qu'il s'adapte.
Justement.
Faut qu'il apprenne à connaître ses partenaires.
C'est que cette année le marché s'est débloqué tardivement et que
non,
tous les clubs étaient
pas débloqués tardivement. Les clubs travaillent
mais
pas
Lyon,
bien.
Lyon par exemple, si a anticipé. Il a raison, Kevin.
Oui,
Lyon
mais ils ont pris. Oui, mais
recrutement par
ils
exemple.
Ont pris.
Bah, ils ont pris
Thiago Mendes.
Thiago Mendes.
Il joue en Ligue 1. Ça joue en Ligue 1.
Andersen, ça joue pas en Ligue 1.
Andersen, ça joue pas en Ligue 1. D'accord. Mais Andersen, je pense pas qu'il a.
Ils ont pris le Brésilien Lucas.
Ils sont alignés. Ils l'ont quand même payé assez cher. Lucas, ça vient de l'étranger. Mais c'est pas des joueurs qui sont, tu vois, qui ont une garantie. Alors Thiago Mendes c'est différent.
Thiago
Mendes et Andersen, c'est différent parce que Thiago Mendes, il jouait en Ligue 1. Donc t'avais l'attrait de Lyon. Et Andersen, c'est un poste défenseur central. Il y a plus de joueurs qui étaient prêts à bouger cet été. Tu le vois.
Mais pour le poste de numéro 9. Monaco à l'hiver dernier.
Bon, pas de numéro 9, c'est différent.
On va prendre Cédric qui est au 32-16, qui a fait le 32-16. Merci beaucoup, Cédric.
Ciao, c'est dans
bonjour, messieurs.
Salut, supporter de l'AS Monaco. J'imagine que toi aussi, t'es un petit peu dépité par cette entrée en matière.
Bah, dépité. Et puis, moi, je ne partage pas la même inquiétude que vous. Numéro 9, je pense que ce n'est pas la priorité à Monaco. Hein. On a Glick et Jemerson qui ont encaissé 60 buts.
C'est ça,
la semaine dernière. Et là, on vient d'en reprendre 3 en un seul match.
Et là, Kevin a raison. Là, ils auraient dû anticiper là-dessus.
Non, mais après, bon, vous qui suivez Monaco peut-être même de près, je ne sais pas si tu habites à côté même, mais moi, on m'a dit clairement, Jardim, c'est ses soldats. Voilà. Glick, c'est son soldat. Mais Glick, il est cramé, Glick. Ah ouais. Glick, en fait, faut arrêter. Glick, aujourd'hui, il n'a pas le niveau de jouer en Ligue 1.
Et Jemerson, c'est encore pire, hein, les gars.
Jemerson, je pense même que Jemerson, après, à part une année où il a été, je sais pas, où il a marché sur l'eau, je sais même pas s'il a le niveau de jouer en Ligue 2.
En fait, Jemerson, rappelons-nous,
je parle techniquement.
Avant l'année du site, Jemerson, il était catastrophique. Il y a cette année où, comme tu le dis, il marche sur l'eau. Et depuis, voilà, il a retrouvé son vrai niveau. Et là, encore plus au milieu de terrain, c'est encore plus catastrophique. Et là, je te rejoins, là, ils auraient dû anticiper sur ces postes défensifs. Tu sais que c'est le problème depuis le premier match.
Mais ils n'anticipent pas, puisque ce que nous dit Cédric, et Kevin, c'est que visiblement, Leonardo Jardim, il leur fait toujours confiance.
C'est ça qui
est son choix-là qui est quand même complètement incompréhensible. Là, ce soir, c'est Glick qui a été
capitaine.
Et là, Glick, ce soir, a été capitaine.
Mathieu Jemerson a joué au milieu de terrain. Le gars n'arrive pas à faire une passe à 20 mètres. Il joue au milieu de terrain. Alors, à la rigueur, derrière, entre guillemets, s'il envoyait du bois à une époque, toi, dur, quand même dur sur l'homme, un gars qui était quand même assez rapide par sa jeunesse, qui avait des jambes, qui arrivait, bon, sans une relance exceptionnelle, mais voilà, à faire le job. Mais là, il le met numéro 6. Aujourd'hui, le numéro 6, c'est quasiment, tu vois, le meneur de jeu dans des équipes. Alors, pas forcément à Lyon en face, parce qu'il y a plutôt Aouar qui joue un peu plus haut, mais tu vois ce que je veux dire. Jemerson en 6. Mais je l'ai vu faire des passes à 10 mètres, mais en touche. Je dis, mais je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce que Jardim veut avec Jemerson, notamment dans cette équipe, mais alors encore moins au milieu de terrain.
En même temps, actuellement, il n'a pas trop le choix. Qui d'autre mettra la place? Quand tu vois le banc, il n'y a personne.
Donc c'est bien ce que je te dis. Tu dis que t'es pas inquiet.
Il y avait Golovin qui était suspendu.
Tu me dis que t'es pas inquiet. Moi, je dis qu'un club comme Monaco qui a un tel budget.
J'ai dit que j'étais inquiet, moi. Je suis très
inquiet. Il a dit que c'était pas le numéro 9, que le poste de numéro 9 qui l'inquiétait.
C'est la défense.
Le problème, c'est qu'au poste de numéro 6, t'as pas grand choix. Après, ce que tu peux te dire, c'est que tu peux essayer de changer ton animation, essayer de mettre Fabregas devant la défense, qu'il a déjà joué à ce poste-là, tu peux essayer de bricoler quelque chose. Après, quand on regarde, je peux peut-être comprendre ce que tu dis, quand tu dis que t'es pas inquiet pour l'attaque, parce que c'est vrai que t'as quand même des joueurs devant.
Attends,
tu vas voir. Keita Baldé qui est suspendu, qui va revenir. Ouais. Mais le problème,
Keita Baldé, Jardim n'en voulait plus.
Est-ce qu'il va rester?
Écoute, le problème, c'est que des joueurs, t'en as. T'as Pellegrini. T'as Jovetic. Mais le problème, c'est que t'as toujours ce problème de blessure lancinante et récurrente à Monaco qui fait que quand tu regardes l'effectif, il y a quand même du matos. Mais la moitié des joueurs, elle est à l'infirmerie. Pellegrini, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Ok, il est jeune, mais il a quand même montré des belles choses. Jovetic, il a joué combien de matchs à Monaco depuis qu'il est arrivé? C'est ça qui est inquiétant aussi. C'est qu'il y a un problème avec le staff médical dans cette équipe. D'une part, t'as Jardim qui continue de mettre des joueurs qui ne doivent plus être mis sur le terrain. Je te rejoins, Kevin, à l'image de Jemerson et de Glick. Et d'autre part, les bons joueurs de l'effectif. Attends, mais franchement, combien de matchs il a joué, Jovetic? J'aimerais vraiment le savoir. sur combien de matchs possibles, le pourcentage de matchs qu'il a joué. C'est incroyable.
En tout cas, il y a un point rassurant pour vous. Alors, j'aurais aimé, okay, avant ce match, vous dire qu'il y en avait deux.
C'est
mais pour le coup, c'est Aguilar.
Attention.
Voilà, Aguilar, ah, Aguilar, il a un bon match. Ouais, ouais. Il a quand même surnagé dans une équipe en difficulté. Il a quasiment gagné tous ses duels.
Alors qu'il est arrivé il y a deux jours seulement. Hein.
Voilà, il est vraiment un mec frais. Malheureusement pour vous, Lecomte s'est mis au niveau de sa défense aujourd'hui et a pris un but largement évitable. Mais c'est vrai que lui, c'est un bon gardien, donc on pense qu'il va se remettre vite fait au niveau. Mais franchement, c'est inquiétant.
Alors, le deuxième but, on peut en parler. Benjamin Lecomte, mais je suis désolé, il y a comment Depay, il avance, et il y a Henrich et Jemerson, il n'y en a aucun des deux qui sort. Aucun. Ouais. On est quatre sur la même ligne à l'entrée des 18 mètres. Et ça, c'est le béaba du foot. Donc, quand tu ne fais pas ça en Ligue 1, bah, tu payes cash. Après, oui, Benjamin, c'est peut-être une erreur, mais le ballon, si vous regardez bien la trajectoire, il a sauté d'une façon incroyable.
Cédric, qui est-ce qui recrute en ce moment vraiment? Quel est le responsable du recrutement aujourd'hui à Monaco?
Mais justement, on ne sait pas. Alors, tout le monde dit que le patron, c'est Petrov. Mais le problème, c'est qu'il y connaît quoi au foot? Il y connaît quoi? Et il n'a pas les mêmes réseaux que Vassiliev. Vassiliev était apprécié. Et tout le monde dit que, on l'appelle l'avare, Petrov. Parce que maintenant, c'était fini. Avant, on recevait les agents en grande pompe. Maintenant, c'est terminé tout ça. Terminé. On les reçoit, mais non, on veut économiser. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, s'il y a vraiment un budget de 200 millions, on va attendre jusqu'au 31 août, parce que j'ose pas imaginer qu'on fasse exactement les mêmes erreurs que l'année dernière.
J'ai pas l'impression qu'ils veulent le dépenser, leur argent.
Parce que j'ai un ami qui était dans les loges à Monaco, et qui était assis à quoi, 10 mètres de Dolas, et qui est en train de dire que Falcao avait signé à Galatasaray. Et ça, ça m'inquiète.
Ah oui, bah Falcao,
il va y aller à Galatasaray. Hein.
Mais moi, si je peux passer un petit message quand même
au
recruteur, parce qu'il nous faut un aboyeur. On avait un joueur, je ne sais pas ce que vous en pensez l'année dernière, qui était très bon, qui va faire une saison sur le banc, ça se trouve à Leicester, c'est Adrien Silva
ouais,
qui était 6. Et lui, c'est un aboyeur, lui, il est capable de faire avancer les gars et puis de diriger une équipe comme celle-ci. Hein. Ouais. Avec un petit Nzonzi, et c'est parfait.
Nzonzi, on en reparlera peut-être dans le Mercato Show dans un instant, le Mercato Show d'Oussem Moussaïef. Il y a des nouvelles.
Attends, mais il y a des nouvelles
sur Nzonzi.
Nzonzi, on me le dit à Lyon, on me le dit à Monaco, on me le dit à Rennes.
Non, mais là, pour le profil, Cédric, il fait son marché.
Le profil est très bien. C'est très bien.
Voilà.
Il dit Nzonzi à Monaco, ça serait bien. Merci beaucoup, Cédric.
Ciao, Cédric.
Merci d'être passé dans l'after. À bientôt et bon courage pour cette saison avec l'AS Monaco. Bon, ça ne fait que commencer, évidemment. Mais au-delà des joueurs, au-delà des cas particuliers, il y a quelque chose quand même qui est assez marquant dans cette équipe de Monaco, c'est cette faiblesse mentale. Je ne sais pas si on l'avait eu déjà la saison dernière. Dès que ça ne va pas dans le bon sens, là il y a le but encaissé très tôt dans la partie, il y a le carton rouge évidemment.
C'est dur à analyser,
il
n'y
a pas du tout de réveil. Mais déjà dans les grands matchs, tu te souviens la saison dernière?
Je te rejoins, mais là sur ce match-là,
ça plongeait.
On va peut-être essayer de ne pas tirer des conclusions sur ce match-là,
non,
parce que le scénario
pas des
est quand
conclusions,
même.
Mais je
Si base, vous tirez des conclusions, monsieur.
Je base sur la saison dernière.
T'as raison.
Et j'ai vu le même Monaco, en fait.
T'as entièrement raison. C'est-à-dire une équipe sans réaction, une équipe qui baisse les bras à la première difficulté. Après, circonstances atténuantes, le scénario du match, il n'y a rien pour eux ce soir. Ils prennent le but très vite.
Oui, bah,
il y a l'expulsion très rapide.
Mais
il y a l'expulsion aussi très rapide qui n'est pas forcément
justifiée. Le but, c'est sûrement le premier but, Jonathan. Corner au premier poteau, Glick et Jemerson.
Vous en avez parlé pendant le match de Glick et Jemerson sur le corner?
Mais oui. Glick et Jemerson qui se regardent et Dembélé qui certes met une belle tête, mais
non, mais il est tout seul.
Elle est belle, mais elle est facile à mettre. Cette équipe, tu sais, elle a un manque de réaction qui est flagrant. Il y a pas de sentiment
de
révolte.
C'est pas de réaction, je dirais. C'est tout simplement de discipline derrière.
Non, mais même il y a pas de caractère dans cette équipe. Tu vois, il leur faudrait un mec qui rentre.
Prenez le problème à l'envers, les gars. Le problème de cette équipe, c'est que derrière, elle est nulle. On va le dire tel que c'est. Cette équipe, elle est nulle derrière. Ça fait 2 ans que cette équipe, elle est rincée. T'as des joueurs qui vivent toujours sur le titre qu'ils ont gagné l'année avec Mbappé qui était en feu. Mais cette équipe derrière, en défense centrale, elle est bidon. L'année dernière, mercato d'hiver, ils ont essayé d'aller chercher Naldo. Ça a donné quoi? Ça a pas marché. Ils ont jamais su trouver. Mais je suis d'accord, mais tu te rappelles quand ils l'ont pris, ils disaient oui, ça va stabiliser notre défense.
Ils ont mis Badiachil aussi.
Badiachil, quand tu parles de faiblesse mentale. Quand tu parles de faiblesse mentale, Badiachil, c'est la figure de proue de ça. Badiachil, toutes les fois où Monaco
il
était
jeune,
dans le dur.
Mais là, il y a le jeune Panzo, là, qui était titulaire ce soir.
Moi, je pense que regarde Saliba, regarde Camara, ils sont jeunes aussi. Mais ils lâchent pas.
Non mais il est jeune, Badiachi, il arrive dans un club qui était prévu pour jouer la Ligue des Champions et qui finalement a joué la relégation. Tous ces jeunes qui ont joué l'an dernier,
plus qu'un numéro 9.
Je peux pas leur reprocher grand chose aux jeunes.
Plus qu'un numéro 9, ce qu'il faut absolument, c'est recruter un taulier derrière. Je pense qu'on tourne autour du
même deux tauliers. Tu peux en prendre un.
Oui, si possible.
On va pas tirer des conclusions hâtives. Tu as raison, Jonathan. Après une seule journée de championnat, on est tous d'accord. Mais Leonardo Jardim, quand même. Il n'y a pas des questions à se poser sur Leonardo Jardim qui a été rappelé.
Jardim, il est
la fin de saison dernière était catastrophique quand même pour l'AS Monaco, même s'il les a sauvés.
Pour moi, le problème, c'est pas l'entraîneur.
Ah non, parce qu'il a fait des choses exceptionnelles.
C'est le projet. T'avais un projet. Alors, il y avait Campos derrière, avec t'allais chercher des jeunes. T'étais dans un. En plus, t'étais vraiment. Monaco, c'est un club particulier. Il y a pas vraiment d'ambiance. Il y a pas vraiment de supporters. C'est vraiment un contexte.
Ça marchait
vraiment unique.
Ça marchait parce qu'il y avait Campos. T'as dit le mot juste.
Mais bien sûr, il y avait Campos. Mais depuis qu'il est parti, tu peux mettre Jardim, tu peux mettre Thierry Henry, tu peux mettre Mourinho. Le problème, c'est que les mecs, ils ont 220 millions d'euros de budget, mais tu sais très bien qu'ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas là pour recruter et avoir une équipe solide.
Et quand tu fais ça, il faut pas te planter sur le recrutement. Et là, j'aimerais bien qu'on, sur Twitter, on nous fasse la liste des recrues de Monaco sur les 3-4 derniers mercato et de voir le pourcentage de recrues qui ont été
faites. Alors voilà, sur le hashtag RMC Live, n'hésitez pas, on transmettra à Jonathan qui, lui aussi, fait comme chez lui. Il a raison. Normal. Romain au 32-16, supporter de la maison. On va reparler de l'Olympique Lyonnais, on en a beaucoup parlé au début de l'after, mais on revient avec toi, Romain, sur la victoire de l'OL, 3-0 contre l'AS Monaco. J'imagine que tu es satisfait. Salut, Romain.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Romain. Salut, Romain.
Écoutez, oui, forcément, très
bravo.
Satisfait, très heureux. Alors, avant toute chose, on n'est qu'au premier match, on ne va pas s'enflammer.
Non, on a le droit d'avoir pris du plaisir quand même, avoir cette équipe.
Ah, mais tout à fait.
Avoir Lyon, pas avoir le match. Hein.
Avoir cette équipe.
Et on n'est qu'au premier match et la saison est très, très longue. J'ai fait mes 3 points.
Ah bah c'est bien,
vas-y balance mon pote.
Le fidèle de l'after.
Vas-y.
Alors le premier point, vous êtes déjà largement revenu, c'était la maîtrise du match de A à Z. Ouais. On sent qu'il y a une petite patte Silvinho quand même qui s'est installée.
Ouais.
Ça bouge pas. De la première à la 98e minute, c'est cadré, les joueurs sont calmes, sont sereins. En fait, on a l'impression qu'il y aura pas de problème, il y aura pas de boulette. À la dernière seconde, il n'y aura pas un carton rouge où Memphis va péter un plomb. On sent que c'est cadré.
Et la charnière sérieuse, hein. Calme. Hein.
Voilà, c'est vraiment... tout le monde est concentré, il n'y a pas de saute de concentration. Tu vois, vraiment, voilà. Là, pour le coup, la patte Silvinho, vraiment incroyable. Et le deuxième point que j'ai noté, pour moi, qui est le jour et la nuit par rapport à l'an passé, c'est vraiment les efforts défensifs de Traoré et Memphis.
Ouais, c'est clair.
La ligne de 5 au milieu de terrain, quand Lyon perd le ballon, le replacement, les trois du milieu et les deux ailiers, la ligne de 5, mais on faisait quoi l'an passé en fait? On était aux champignons, on était aux fraises, on faisait quoi?
Romain, tu sais ce que, avant de te laisser finir, mais tu sais ce que j'aimerais vraiment? Moi, je suis pas du tout supporter lyonnais, j'ai rien avec Lyon, j'ai rien pour ou contre Lyon. J'adorerais que vous fassiez une saison énorme, tu vois. Quitte à jouer le titre avec le PSG jusqu'au bout. Alors, on n'est qu'à une journée, peut-être que ce sera pas le cas, peut-être que vous finirez septième, j'en sais rien du tout. Mais qu'est-ce que j'adorerais. Pour tous les gens qui, quand l'année dernière, on disait, mais quand même, il manque de l'âme, on a l'impression que Genesio, il a un peu de mal avec cette équipe, ça fait plusieurs années. Et tous les gens, oui, mais c'est le résultat, on est troisième. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez flamboyants et que Memphis, il éclate tout, que Traoré, il éclate tout devant, que derrière, vous soyez costaud. Pour qu'enfin les gens ils comprennent ce qu'on voulait dire quand on disait que cet effectif il a tellement de qualité qu'on voudrait voir.
C'est juste pour te donner raison. Dans c'est le pas pour avoir une saison de Ligue 1 sympathique. C'est juste pour avoir raison à la fin.
Et pour avoir.
Et pour dire, je l'avais dit.
Voilà.
C'est Kevin Nostradamus.
Et pour dire une saison. Et pour avoir une saison de Ligue 1
sympathique. Et le troisième point du coup.
Très bien.
Alors, juste, je rebondis sur ce que tu as dit, pardon, Kevin. Junio l'a dit dès sa première conférence de presse. Hein. Lyon n'est pas là pour être un 20 points de Paris. Hein.
Merci.
Lyon est là pour vraiment pour titiller le PSG.
Obrigado, même.
Et voilà. Et le troisième point, moi, je trouve qu'on a une colonne vertébrale qui peut être vraiment très énorme. Forte cette année.
Ouais.
Lopez, Denayer, Thiago Mendes et Dembélé.
Ouais.
Rajoute Andersen.
Alors, Andersen, je vais te dire franchement, moi, j'ai regardé Canal. Stéphane Guy, là, il a poudré Andersen, alors qu'il faut prendre le temps. Andersen, il va arriver à prendre ses marques.
Il faut écouter RMC, je te l'ai dit déjà.
Mais Andersen, moi, je ne connais pas tellement, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment Denayer pour l'instant.
Denayer capitaine, d'ailleurs.
Ouais, ça me choque pas.
Denayer capitaine. Mais je pense que...
On ne le savait pas avant, c'est demi-surprise.
Comme disait Kevin sur l'autre émission de l'After, je pense que Silvinho fait comme les entraîneurs portugais, avec 3-4 joueurs, 3-4 leaders. Parce qu'il y a eu à un moment le débat aussi du capitana tournant avec Cicinho.
Oui, je suis d'accord, peu importe le capitana. De toute façon, aujourd'hui, le capitana, c'est vraiment, allez, ça fait beau sur la photo, et puis j'espère qu'il aura de la chance et qu'il signera bien les feuilles de match. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est important dans un groupe, que ce soit professionnel ou d'ailleurs ou haut niveau, c'est d'avoir des cadres qui sont bien définis, des cadres qui représentent bien l'effectif et qui, eux, sont la locomotive et tirent l'équipe vers l'avant.
Okay.
Qui tient le brassard, c'est un peu okay. Une vision à l'ancienne.
Merci beaucoup Romain. D'être passé dans la
saison.
Avec l'Olympique Lyonnais. On se retrouve dans un instant, Jonathan et Kevin. On vous attend aussi au 32-16. N'hésitez pas à nous joindre puisqu'on va faire un tour du Mercato. C'est le Mercato Show dans un instant. On parlera également de la belle victoire de Liverpool pour la première journée de Première Ligue. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'Afterfoot, François Pinet.
C'est reparti pour l'after, 23h27. On est encore ensemble pendant une belle grosse demi-heure avec Kevin Diaz toujours là, avec Jonathan McCarthy évidemment. On va parler dans un instant de la Première Ligue avec la victoire de Liverpool face à Norwich et puis des concurrents de Première Ligue qui vont essayer de prendre le titre à Manchester City. Mais tout de suite, c'est l'heure du Mercato Show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Ah, le Mercato Show.
C'est quand même le générique, le plus beau générique de l'histoire de la radio.
Il est excellent. Il est exceptionnel.
Je suis tout à fait d'accord aussi. moi, je préfère le... Excuse.
30 000.
Voilà, là, on a quand même la version printemps-été 2019.
Laissez-moi vous présenter
Week,
Oussem Loussaïev. Je ne l'ai même pas encore présenté, Jonathan. Salut Oussem.
Salut François, salut monsieur. On ne parle pas du bronzage de François. On sent que le mec qui revient de vacances.
Non, alors, c'est pas un bronzage.
Quel homme, pas mal.
C'est pas un bronzage.
J'ai évité les coups de soleil et j'ai.
C'est pas un bronzage.
Enfin, j'ai pas de coups de soleil.
Ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas. Hein,
oui, parce que c'est très intéressant.
Ceux
qui nous écoutent.
C'est le bronzage un petit peu Rosette de Lyon.
Non, mais tu sens que le mec a passé de bonnes vacances.
Que ça a été long.
Exactement.
Parce qu'au début, ça pèle. Et puis
c'est
après,
un peu rouge quand même. Hein.
Non, c'est bronzé là.
Et si on te démaquille, c'est quoi ?
Non, je ne suis même pas maquillé. Bon, Oussem,
oui.
On va parler avec toi de Mercato, évidemment. Et notamment en Ligue 1, puisque ça peut encore bouger. On commence avec le Stade Rennais,
et
qui
oui.
devrait perdre un nouveau joueur, un nouveau titulaire.
Un titulaire de la saison passée. Le président Létang l'a dit sur nos antennes hier. Il y a qu'un joueur qui dispose d'un bon de sortie, c'est Rami Ben Sebaini. On sait qu'il y avait une offre qui venait du côté de l'Espagne. Et on apprend aujourd'hui que Rennes est même en discussion très avancée avec le Borussia Mönchengladbach. On parle d'un transfert de 10 millions d'euros pour le nouveau champion d'Afrique.
Et ça fait quand même
10 millions d'euros.
Ouais. Ils vont plus avoir d'équipe en fait.
Koubek.
Alors,
Mecher, Ben Arfa,
Sarr,
André.
Ça serait le sixième titulaire qui
partirait. Ça fait quand même énorme.
C'est incroyable.
Les gars, le problème c'est que Ben Sebaini il était en fin de contrat.
Oui.
Dans un an. Exactement.
Ouais,
10 millions d'euros pour quelqu'un qui est en fin de contrat dans un an.
Non mais,
c'est bien vendu.
Que ce soit une belle opération certes, mais après il y a le sportif.
Oui, bien sûr.
Mais non, mais c'était prévisible. Hein, il avait dit. Enfin, Julien Stéphan était transparent là-dessus en Chine hein, en disant soit il re-signe, soit. Enfin voilà, le départ était inéluctable.
Mais ils ont recruté qui Rennes.
Alors il y a Flavien Thé qui est venu sur le secteur offensif.
Ouais. Mais c'est léger.
Il y a Morel qui est venu en défense aussi.
Voilà. C'est à peu près tout. Et puis le gardien,
c'est Mendy. C'est quand même une belle offre, ce qu'ils ont fait dans les buts, vendre Koubek 8, acheter Mendy 4.
Ça, pour le coup, c'est une bonne affaire. Mais pour le reste,
ils ont perdu beaucoup de.
Encore une fois, que financièrement, ce soit bien géré.
Pour le sportif.
Après, voilà, il y a quand même une saison qui s'est très bien passée l'an dernier. Il faudrait quand même.
Ah bah
continuer de progresser.
Puisque tu parles peut-être de recrutement,
il
faut recruter absolument. La presse italienne parle d'un renfort au milieu de terrain. Arrête.
Et on parle de Steven Nzonzi, champion du monde avec les Bleus. Alors,
ouais, mais
je vais te dire.
On va pas pouvoir se téléporter.
Je vais te dire ce que je sais de ça. Alors la presse italienne parle d'un intérêt de Rennes. Apparemment, selon la presse italienne, Rennes est entré en discussion avec l'AS Rome. L'AS Rome veut libérer le joueur, ne compte plus sur Steven Nzonzi. Le montant du transfert pour acheter Nzonzi, c'est 25 millions d'euros. Rennes discute d'un prêt avec option d'achat. Alors voilà ce que dit la presse italienne. Moi, j'ai essayé d'avoir l'entourage de Steven Nzonzi.
Et tu l'as eu, parce que
j'ai eu. Et quel homme
exceptionnel.
Et on me dit qu'il n'est pas du tout question du Stade Rennais. Après, je pense que Steven Nzonzi attend d'autres propositions.
Mais
que ça se décantera.
Après, avec tout le respect qu'on a pour Rennes, j'ai entendu Steven Nzonzi. Il peut aller à Lyon, il peut aller à Monaco, il peut aller à Rennes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Enfin, c'est clair. Déjà, c'est Lyon en premier, peut-être.
Et, oui, bah, tu vas à Lyon.
En deuxième, Monaco.
En deux, tu vas à Monaco après le match que tu as vu.
Juste, oui, mais Monaco, attendez, Monaco,
un cadre de vie, aussi, joue pas la Coupe d'Europe.
Il y a le SAS, il y a le Twiga, il y a la plage.
Ouais, tu vois.
Habiter à AS, t'es pas mal quand même à Monaco.
Ouais, Monaco. Monaco. Qu'est-ce que c'est que le SAS et compagnie? Il pourrait parler tout à l'heure à un auditeur.
Il rentre
ensemble
ou pas?
Il a son yacht à Monaco.
Pourquoi je rentrerai pas?
Je sais pas.
Si, si, crois-moi, il a
son yacht. Si, c'est une star, c'est une star.
Dites-moi pourquoi on peut pas rentrer.
Si, tu pourrais rentrer, François.
Parce qu'il y a un videur et tout ça.
Non, c'est lui qui le dit, ça.
C'est moi qui le dis.
Je suis pas d'accord, François.
Avec ce bronzage, François, tu rentres partout. Tu rentres partout.
Non mais c'est vrai que sur le plan sportif, toi,
tu dis c'est notre projet, tu rentres partout.
Sur le plan sportif, tu le verrais plus à Lyon ou à Monaco.
Ouais. Même à Lyon, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence, on ne sait pas. Mais moi à Monaco, je le vois plus qu'à Rennes en tout cas.
Oui. Bon, on va demander à Eric ce qu'il en pense. Supporter rennais, est-ce qu'il est inquiet de toutes ces infos données par Oussem? Salut Eric.
Salut toute la team.
Merci beaucoup.
Allez, Eric, ça va bien.
Bah ça va très bien. Et toi, est-ce que ça va?
Je voulais faire une toute petite parenthèse pour féliciter la Coupe du Monde féminine qu'on a eu quand même eu à Rennes. Et honnêtement, ce football, moi qui avais vraiment un gros doute, aujourd'hui je suis fier d'avoir découvert ce football.
Une belle parenthèse. Tu parles à monsieur football féminin de RMC Sport quand même.
En même temps, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas difficile.
C'est une fierté à Rennes, on a été fiers de les recevoir.
Merci Eric, et tu as bien raison de faire passer ce petit message. Sur le Stade Rennais, justement, sur le mercato, sur les infos d'Oussem, est-ce que ça t'inquiète, toi, le mercato?
Bien sûr que ça inquiète. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est à 24 heures d'une nouvelle saison. Donc avec une saison qui a été juste magnifique l'année dernière, avec des exceptions et beaucoup de chance, faut pas non plus se mentir. Mais voilà, une saison que nous, on attend depuis 30 voire 40 ans. Aujourd'hui, on fait une super saison. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de continuer ce rêve qu'on nous a donné. J'ai l'impression qu'on va retourner dans nos travers où on repart dans la formation, où on repart encore dans un objectif de 8, 9, 10, voire 11e. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qu'on veut. Non, quand tu goûtes à l'Europe, quand tu goûtes au football, à un moment ou à un autre, bordel, c'est bien beau de vendre tes joueurs 30, 40, 50. Mais derrière, c'est pour aller chercher Morel, Salinté, Mendy. Oui. Ah, je veux bien.
Et
mais
Eric,
dans ce cas-là,
c'est quand même pas mal.
Chercher Dandé mais, aussi.
Et Eric, voilà, bienvenue. Et c'est pas du tout pour te taquiner, mais bienvenue dans le football business en fait et toutes ses limites.
Mais c'est ça aujourd'hui.
Pourquoi, aujourd'hui un club comme Rennes, un club comme Francfort, ils sont où leurs deux attaquants? Ils sont partis. À Rennes, Jovic, ils sont où leurs meilleurs joueurs?
C'est un peu leur porte-pièce là, parce que très franchement,
écoute-moi. Te laisse mettre de tes propos. En tout cas, moi, je reste convaincu de ce que je viens de te dire.
Rennes,
les limites du football business.
Mais je pense que Rennes n'est pas dans cette logique-là. Alors là, pour l'instant, quand tu regardes, effectivement, l'effectif s'est grandement affaibli. Tu perds ton meilleur joueur qui était Benjamin André, qui va être très difficile à remplacer. Surtout que la somme, pour moi, c'est pas une somme hyper folle à laquelle ils ont vendu. C'est certes le prix du marché. Mais bon, ils ont quand même acheté Mbanyang. Définitivement, ça leur a coûté un peu d'argent. Maintenant, le problème de Rennes, c'est que ils étaient un petit peu tributaires de la vente de Ismaïl Assar en Angleterre. Ça s'est fait très tard. Là, ils ont pris une belle somme d'argent. Le vrai problème que je vois maintenant dans cet effectif-là, c'est que t'as un effectif qui reste quand même de qualité. Je pense notamment devant, par exemple, un joueur comme Sibatcheux qui s'est blessé très tôt dans la saison. J'attends de voir la saison qu'il va faire cette année. Je pense que Flavienté, ils ont mis l'argent pour le prendre. C'est un très très bon joueur. Je pense que Flavienté, c'est totalement le club où il peut vraiment passer le palier et devenir une des valeurs sûres de Ligue 1. Mais le problème, c'est que t'as encore des trous béants dans cet effectif-là. Va falloir remplacer Ben Sebaini parce qu'il a pas de remplaçant vraiment au niveau. Va falloir remplacer Benjamin André. Et l'argent de Ismaïl Assar, je vais le récupérer très très tard. Donc on va être très attentif avant que, s'il faut, je serai d'accord avec toi au final, mais je vais être très attentif sur les 15 prochains jours. Mais je pense que Rennes quand même va s'activer. Et l'étant Stéphane Londy, il va avoir des recrues. Ça, c'est tard,
comment,
c'est peut-être
comment,
pas idéal, mais il va avoir des recrues. Attends,
juste après, je te laisse la parole. Mais donc, on en a parlé pour Monaco. Tu me redis la même chose.
Parce que c'est.
La saison, elle a commencé aujourd'hui. La saison, c'est pas dans deux semaines.
Mais alors,
la saison, c'est pas le premier.
Alors, on va demander à Monsieur Mercato. Je pense qu'on va tous être d'accord.
Est-ce qu'un jour on va comprendre?
On va tous être d'accord.
Il y a un nom en tout cas qui circule.
On va tous être d'accord ensemble.
Moi, je veux
bien. C'est qu'il faut changer les règles du mercato et que ces mercato en différé qui ont des dates qui se
terminent. Ça, il faut arrêter le mercato là.
Les entraîneurs français
sont pareil pour tout le monde. Non, mais il faut que tout le monde ait les mêmes dates de mercato parce que ça crée ce genre de situation.
La majeure partie des entraîneurs français sont d'accord aussi pour faire ce qu'a
fait. Et ça voudrait dire anticiper pour le coup.
Exactement.
Anticiper, c'est pas dans le vocabulaire du foot français.
Pour rassurer Eric, notre auditeur, je ne sais pas si ça va le rassurer, mais en tout cas, hier, le président Létang nous parlait de la possibilité de faire venir Claude Maurice, l'attaquant de Lorient,
c'est un bon joueur.
Pour remplacer Ismaïl Assar. Alors, c'est pas un nom ronflant.
Non, mais c'est un
gros potentiel.
Moi, j'aime bien.
C'est un gros potentiel.
C'est un bon
les mecs. Belle recrue pour un projet d'Europe.
Il a pas l'air convaincu, Eric.
Non, mais faut arrêter. À un moment ou à un autre, faut arrêter. Moi, j'entends bien. On sort des pépites. La Camavinga, très bien, 16 ans. Donc, il va jouer. Dans un an, on est d'accord, il est vendu en Angleterre. On va le vendre 40. Mais aujourd'hui, vendre.
Tu vas le récupérer deux jours après.
Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même acheter.
T'es pas content d'avoir pris Fabianté? D'avoir sorti les joueurs pour Fabianté?
Comprendre qu'il soit acquis, effectivement. Ok. Merci beaucoup, Eric, en tout
ciao,
cas.
Eric.
Et bon courage,
Eric,
qui commencera au Montpellier demain. Demain à 20h, on suivra ça, évidemment, en direct sur RMC, le Montpellier-Rennes, pour la première, donc, du Stade Rennais. Un retour en Ligue 1, Kakuta, qui retrouve la Ligue 1.
On en parlait hier soir dans cette émission, c'est désormais officiel. Gaël Kakuta revient en France et revient même à Amiens.
Bravo.
Club dans lequel il a déjà évolué. Il quitte le Rayo Vallecano, il rejoint Amiens pour les trois prochaines saisons et ça a coûté à peu près 3 millions d'euros
mais
au club amiennois.
C'est magnifique. C'est ma choix, je suis hyper content. Et cette année, on va le faire. Jean-Marc de la Maison du Whisky, le plus grand supporter d'Amiens, qui est au stade tous les 15 jours, à tous les matchs domicile d'Amiens, qui attendait la signature de Kakuta avec impatience, il va venir en studio et il va nous débriefer un match d'Amiens avec nous.
Ah, c'est décidé là comme ça maintenant?
Non, on a déjà discuté, ça va se faire.
Non, mais ça a été validé par le grand chef.
Par les prods, ça va.
Je suis content pour le whisky
comme chez lui, Jonathan.
C'est un bon joueur. C'est quand même un bon joueur.
C'est un super joueur.
Il a quand même fait une belle saison à Amiens. Et Amiens a besoin de lui, quoi.
Bah, justement, Amiens.
Il a un peu d'os à Amiens, en plus.
Puisqu'on parle d'Amiens.
Une fois, bon, j'allais te le dire, mais les limites du foot business. Qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est parti d'Amiens, en fait? Tu crois que c'est pas pour l'argent? Après,
c'est rien à voir.
Je te parle pas de.
Le Rayo voulait pas le vendre.
Tout le monde est d'accord que demain, si on te propose plus d'argent dans n'importe quel travail, tu vas y aller. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des joueurs en fait qui ont des trajectoires,
gars,
qui partent en Angleterre, qui partent en Espagne.
Voudrais avancer, Kevin.
C'est pas un bon exemple. Vous voulez rester à
Amiens sur Laurent Blanc.
Vous voulez rester à Amiens.
Oui. C'est Rayo qui a pas
dans un instant, on va parler de Laurent Blanc.
Parce que Amiens avait pas l'argent.
Non, c'est Rayo qui voulait pas.
Ça t'intéresse pas les infos sur Laurent Blanc, Kevin?
Si.
Bon, alors on juste, on fait le point sur Amiens.
On finit sur Amiens.
Parce qu'il y a notre recrue potentielle.
C'est une info de nos confrères de l'équipe. Amiens essaierait de faire revenir Kevin Ezimiat Mirin. Vous vous rappelez de lui,
oui,
qui jouait
au Pays-Bas.
Du PSV Eindhoven, qui appartient à Beşiktaş.
Ah ouais?
Donc le défenseur de 27 ans.
Qui veut le faire revenir?
Amiens. Amiens cherche un défenseur central.
Très bien. Bordeaux, de son côté, pourrait perdre un défenseur.
Un peu comme Rami Ben Sebaini, un titulaire de la saison dernière du côté de Bordeaux cette fois-ci, c'est Youssouf Sabali, l'international sénégalais qui est sur les tablettes de l'Atalanta Bergame. Bergame, on le rappelle, hein, qui joue la Ligue des Champions cette saison et donc qui essaie de se renforcer un peu plus. Ça peut être une grande perte pour Bordeaux. On le rappelle, Paulo Sousa, hier, en conférence de presse, disait qu'il comptait énormément sur son intention de sénégalais.
Mais en plus, ils ont perdu Palencia aussi, en arrière-droit.
Et après, Saint-Etienne.
Si t'es Sabali et que tu te dis que tu vas à l'Atalanta où ça joue en 3-5-2 avec des latéraux qui sont très très hauts sur le terrain, qui correspondent un peu à son style de jeu, avec un entraîneur comme ça, la Ligue des Champions, c'est tentant quand même. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et un autre départ envisagé au Girondins de Bordeaux.
Ça, c'est une info de nos confrères italiens et c'est François Camano. On sait qu'il a été annoncé un temps du côté de Monaco et apparemment c'est la Sampdoria qui serait rentrée en contact avec Bordeaux pour essayer de récupérer François Camano.
Bon. Bordeaux qui fait tout son mercato sur Koscielny, hein, quasiment, en tout cas en termes d'image.
La Ligue des Talents perd un peu de...
Camano va te manquer. Camano,
seulement, mais voilà, Ismaël Assar, même si...
Ah ça c'est vrai.
Je veux dire, tous les talents...
C'est tous les ans pareil, hein, Kevin, hein,
ouais, mais bon.
Pas surpris. Hein. À l'étranger, tiens,
c'est dommage.
Voilà, on y va, on va parler de Laurent Blanc un petit peu. On
a des nouvelles de Laurent Blanc, on le rappelle. S'il faut le rappeler, Laurent Blanc n'a plus de banc depuis 2016 et son départ du Paris Saint-Germain. Et il a rencontré le président de la fédération marocaine hier. C'était hier matin, donc rencontre avec le président de la fédé marocaine. Il est rentré en France dans la journée, donc hier soir. Et il a quelques jours pour donner sa réponse au président de la fédé marocaine. Ça devrait tomber ce week-end selon mes informations. Et ce qui est fort, c'est que Vaïd était le choix numéro un. Et finalement... C'est Laurent Blanc qui est passé en tête des
la déchéance.
Alors, avec la Fédé.
Comment ça, la déchéance?
La déchéance ou
bah non.
Bon. Bah parce que c'était quand même un entraîneur. Si tu t'écoutais ses agents et son entourage, c'était il part de Paris Saint-Germain, il va finir à Manchester United, quoi.
Oui, mais tu l'as précisé, c'est ses agents et
ouais. Non, mais lui, je pense que lui, en partant du PSG, il se voyait atterrir dans un top club européen.
Il a dit une fois qu'il visait le top 8 européen, mais il y a une vérité. Quand tu ne coaches pas depuis 2016, arrivé à un moment.
Je vais être taquin, mais s'il allait entraîner la sélection du Maroc, qui sera son adjoint? Parce que c'est important.
Alors apparemment, son staff serait composé à moitié de choix à lui, donc de d'hommes qu'il aura choisi lui, et aussi d'hommes de la Fédé qui sont déjà
il
en
va
place.
Prendre Vaïd en adjoint.
Oh, t'imagines l'attelage.
Entre hier Nantes qui hésitait entre Gourcuff et Domenech, et aujourd'hui la Fédé marocaine qui hésite entre Laurent Blanc et Vaïd, en termes d'opposés, c'est pas mal quand même.
Bah, c'est comme si c'est le dessert, t'hésites à en prendre du pâté en croûte et une charlotte de fraise.
C'est deux philosophies de jeu différentes. Ça s'explique.
Oui.
C'est quand même bizarre. Deux philosophies de jeu différentes. Oui, c'est un projet très excitant puisque le Maroc est une des meilleures nations à faire.
Ouais, c'est sûr.
Allez, 23h41 sur RMC, on est en plein dans le Mercato Show avec Oussem Loussaïef et on va parler un petit peu de l'Angleterre.
Et oui.
Et une bonne nouvelle pour un ancien Parisien.
Et oui, Lucas. Parisien qui était décrié en Angleterre et qui la saison dernière s'est révélé aux yeux des Anglais, puisque nous on le connaît très bien, c'est Lucas Moura qui a prolongé du côté des Spurs, lui qui a disputé 32 matchs de Première Ligue la saison dernière, qui a mis 10 buts, il prolonge jusqu'en 2024.
Bravo.
Bonne nouvelle ou pas?
Je m'en fous.
Bonne nouvelle pour lui.
Ouais. Ouais, rappelle, dans la paix, on avait je m'en fous pas. Ouais. On disait je m'en fous pas. Voilà,
on va parler de Tottenham dans un instant.
Lucas,
et Tottenham est une équipe qui s'est vraiment renforcée.
Ah oui, c'est vrai.
Bah tiens, on va parler de l'Ajax. Transition.
Vas-y.
François, on parle de l'Ajax. Hakim Ziyech qui prolonge à l'Ajax. Il était annoncé partout en Europe, surtout au Bayern Munich. Et finalement, le joueur de 26 ans va prolonger et a prolongé du côté de l'Ajax. Bon, c'est pas une longue prolongation. Hein. Il prolonge jusqu'en 2022 seulement. Donc, on peut imaginer une revalorisation salariale un peu plus nette.
Et là, il est trop content, Kevin.
Bah non, mais il n'y a pas que Ziyech d'ailleurs.
Qui a prolongé. Il y a Neres aussi. Il y a Neres qui a prolongé. Mais ça, c'était il y a quelques jours.
Ouais, donc. Non, mais c'est bien. On parlait de Rennes qui n'a pas su garder ses meilleurs éléments après une super saison. Bah, l'Ajax, bon, pour moi, ils ont, malheureusement, encore une fois, hein, le business a fait que il y a eu des offres à lesquelles ils pouvaient pas refuser. Mais bon, ils ont quand même gardé pas mal d'éléments.
Et Van Den Beek, il va rester ou pas?
Bah, il est parti, là.
C'est du côté du Real. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait.
Il y en a un autre.
Ils ont perdu Schöne.
Schöne, il est parti en Italie.
Bah, toi, ça, Schöne, c'est vraiment une grosse perte parce que c'est un joueur.
Pas très cher, en plus, hein.
Ça fait 2
millions d'euros.
Il a 32 ans, il est plus âgé.
Vraiment, je trouve qu'ils auraient dû le garder.
2 millions d'euros.
Merci beaucoup Oussem.
Merci
pour ce tour du Mercato. On te retrouvera évidemment dans l'after bientôt sur RMC pour toutes les infos Mercato.
Un latéral gauche à Marseille, non, toujours pas, non.
Il y a Kevin Diaz si tu veux qui peut.
Bah, tu sais quoi, je pense que Kevin il a le niveau pour remplacer Jordan Amavi, je pense. Hein.
Ah bah, je pense sans problème.
Je pense aussi. Largement même.
Et il le dit très sérieusement là.
Il a raison.
Pour tous ceux qui ne savent pas nous regarder.
Tu l'as vu Jordan Amavi?
Oui,
mais j'ai vu. Kevin est meilleur.
On a surtout vu Kevin Diaz.
Non, j'ai vu Kevin, mais bon, en face il y avait des plots.
Jordan c'était un bon joueur aussi.
Des plots.
C'est pas le match de l'after. Hein,
Jordan Amavi, les gars.
Mais
est-ce que vous avez vu Jordan Amavi? C'est surtout ça la question. Kevin,
il est meilleur.
Bon, allez, on revient dans un instant, les amis. Merci encore, Oussem. On revient pour la suite et la fin de l'after. On parle de foot anglais avec la victoire de Liverpool face à Norwich. Les forces en présence avant donc cette belle saison de Première Ligue qui nous attend. A tout de suite sur RMC.
RMC. L'after foot. François Pinet.
23h44 sur RMC, on est encore ensemble pendant un quart d'heure avec Kevin Diaz toujours, avec Jonathan McCarty. Qu'est-ce que tu veux dire, Jonathan?
Il n'y a pas une question Pinet, ça?
Non,
il n'y a pas un buzzer Pinet.
Il n'y a pas de question Pinet, il n'y a pas de buzzer Pinet.
Quoi?
Moi, je t'en ferai un hors antenne si tu veux.
Voilà,
je te ferai une question Pinet hors antenne. Mais rien que parce que c'est toi. Kevin est très gêné là, hein, c'est un moment gênant là. Roman frisson. Je vous rappelle que Monaco s'est incliné à domicile 3-0 battu par Lyon lors de la première journée de championnat. On parlera d'ailleurs peut-être qu'on aura le temps de parler de la suite de cette première journée de championnat de cette saison 2019-2020 avec Marseille-Reims demain à 17h30, je vous donne le programme. Angers-Bordeaux 20h, tout comme Brest-Toulouse, Montpellier-Rennes, Nice-Amiens, Dijon-Saint-Etienne, et puis il y aura également un match de Ligue 2 à 15h entre Clermont et Lens. Et puis bien sûr du championnat anglais. On va justement parler du championnat d'Angleterre avec notre correspondant RMC en Angleterre, Julien Laurent. Salut Julien.
Salut François, salut à tous.
Salut Julien.
Salut.
La saison a bien repris avec donc cette belle victoire de Liverpool. 4-1, il n'y avait pas vraiment de suspense, hein, on peut le dire, face à Norwich. Belle victoire. Est-ce que tu veux commencer par le négatif avec la blessure quand même du gardien? Peut-être que tu as des nouvelles à nous donner, je ne sais pas, Alisson. Ou on parle juste.
Alors on n'a pas encore de nouvelles de ce qui s'est passé. Non, il s'est blessé au mollet droit. Il a tiré un 6 mètres et visiblement au moment du contact avec le ballon, il a un peu glissé et il se serait fait mal donc au mollet droit. Il a dû sortir donc en milieu de première période. Adrian, le gardien espagnol qui vient d'arriver au club, qui était libre pour remplacer Simon Mignolet, a pris sa place. Ils espèrent du côté de Liverpool forcément que ce soit pas trop grave, mais ça, quoi qu'il arrive, déjà il sera forfait pour le match de Super Coupe d'Europe mercredi contre Chelsea. Mais ce serait bien pour eux que ce soit pas non plus trop sérieux et trop long, quoi.
Bon, alors, tu étais en field, hein, je le précise quand même. Et donc, tu as vu cette large victoire de Liverpool. En fait, c'est le même Liverpool que la saison dernière. Il n'y a pas eu trop de surprises.
Non, mais il y a des choses intéressantes quand même. Tout n'a pas été parfait, loin de là. En première période, ils ont été très efficaces. 4 tirs cadrés, 4 buts. Ils ont marqué d'ailleurs assez rapidement un but contre son camp de Hanley après un débordement sur la gauche d'Origi qui a aussi marqué, lui dans ce match, comme Mo Salah et comme Virgil van Dijk. Mais ils ont aussi un petit peu été fébriles, j'ai trouvé, défensivement en première période notamment, et aussi même un peu en seconde période. D'ailleurs, Norwich en première mi-temps, ils ont 7 tirs au but, ce qui est le plus grand nombre de tirs pour une équipe adverse ici à Anfield lors des deux dernières saisons.
Ah oui.
Personne n'avait frappé autant au but en première période contre Liverpool ici à Anfield depuis 2017. Donc ça montre aussi qu'ils ont concédé quelques occasions, quelques situations un peu intéressantes pour Norwich qui a fini par marquer en seconde période. Mais voilà, il n'y a rien d'alarmant non plus. Ils montent en puissance, ils ont été un peu carbo en fin de seconde période, mais à part ça, voilà, il y a une victoire tranquille. Il fallait commencer bien, ils ont commencé fort en marquant 4 buts et Klopp était content à la fin du match.
Alors, on rappelle que Liverpool n'a absolument pas recruté un jeune joueur hollandais d'ailleurs en défense, mais c'est la même équipe. Est-ce que c'est pas un risque justement pour une équipe qui a été championne d'Europe de ne rien changer? On a l'habitude de dire que les équipes qui changent
ils n'ont pas changé grand chose.
Oui, ben t'as vu après ce qui se passe.
Ouais, mais ils ont fait un triplé.
Ouais. On leur souhaite à Liverpool de faire un triplé.
C'est pas mal.
C'est vrai. Non, mais après, l'objectif, Julien va peut-être nous le dire, mais l'objectif, c'est quand même d'être champion d'Angleterre.
Tottenham, ils vont en finale. Sans recruter.
Mmh. Ouais. Julien, l'objectif numéro 1 de Liverpool cette saison.
Ah, c'est le championnat, c'est sûr. Mais c'était aussi le championnat la saison dernière. Ils ont gagné la Ligue des Champions dans un sens. Par défaut, et c'est marrant de dire par défaut, mais c'est la vérité. Si tu leur avais demandé de choisir en début de saison, en milieu de saison ou en fin de saison, un titre à remporter, ils auraient dit la Première Ligue. Ouais. Ça faisait 29 ans, là ça fera 30 ans au mois de mai. Forcément. Après, tu choisis pas toujours les titres que tu peux gagner non plus. Hein.
Alors on va parler un petit peu de ce championnat d'Angleterre. On espère que ça sera une saison aussi folle que l'année dernière. Ça sera d'ailleurs à suivre sur RMC bien sûr, mais sur les antennes d'RMC Sport, hein, toute cette saison, le championnat de Première Ligue, avec donc Manchester City, le champion en titre, qui affronte West Ham demain à 13h30. City qui n'a pas non plus bougé beaucoup en termes d'effectifs, même s'ils ont quand même recruté pour 70 millions Rodri et Cancelo pour 65 millions d'euros, donc ça fait quand même des belles sommes.
Et c'est des beaux joueurs. Hein.
Et c'est des joueurs intéressants.
C'est un super joueur. Ouais, franchement, que ce soit Cancelo, qui est un joueur qui est. C'est un ascenseur sur le côté. Il attaque, il défend. C'est vraiment un latéral moderne.
Et Julien, Manchester City, ultra favori encore cette saison ?
Favoris, bien sûr, ouais, pour les consultants ici, les bookmakers anglais aussi, ils sont légèrement devant Liverpool au niveau des pronostics. Parce que tu l'as dit, ils se sont renforcés, parce qu'ils ont aussi pas perdu, ils ont perdu aucun joueur, parce que Kevin De Bruyne, enfin ils ont perdu Kompany par exemple, qui sera peut-être un gros manque au niveau du leadership notamment de cette équipe. D'ailleurs, il a pas été remplacé, c'est quelque chose qui énerve un petit peu Pep Guardiola de pas avoir trouvé un autre défenseur central pour venir remplacer Kompany. Mais sinon, un Kevin De Bruyne par exemple qui a fait une saison quasi blanche la saison dernière, il va être un petit peu comme un nouveau joueur. T'as recruté Rodri qui va te faire énormément de bien et c'est exactement ce dont t'avais besoin. C'est le joueur parfait pour la façon dont tu joues, pour ta philosophie et dans l'état d'esprit aussi. Et puis Cancelo, comme on vient de le dire, c'est un joueur qui peut aussi jouer arrière-gauche, même s'il est droitier, et qui pourra très facilement venir remplacer un Zinchenko, un Mendy ou un Angelino, l'arrière-gauche qui sont allés chercher au PSV, qui était d'ailleurs déjà à Manchester City avant d'aller au PSV.
C'était pas terrible Angelino, moi, sur les matchs que j'ai commentés, l'Asia Cup.
Non, c'était pas terrible. En Ligue des Champions, il a été parfois intéressant la saison dernière. J'ai trouvé dans une équipe qui était quand même assez moyenne, hein, qui a beaucoup souffert.
Ouais.
Mais Guardiola l'aime beaucoup. C'est un joueur avec un bon état d'esprit. Ça fera un bon complément d'effectif. Je pense pas qu'il jouera énormément, mais il leur a coûté, je crois, 4,5 millions d'euros. Ils ont trouvé que c'était une affaire à faire. Bon, voilà. Ils l'ont peut-être fait avant de savoir qu'ils pouvaient faire Cancelo. S'ils avaient su qu'ils pouvaient faire Cancelo plus tôt, peut-être qu'ils auraient pas pris Angelino. Mais voilà, je pense que ça leur fera pas de mal non plus.
Alors, avant de parler de Tottenham, d'Arsenal, de Manchester United ou encore de Chelsea, on va donner la parole à Pierre, supporter de Liverpool qui a fait le 32-16. Pierre. Salut Pierre.
Oui, bonsoir messieurs.
Salut Pierre. Ça va ?
Salut Pierre.
Très bien.
Alors Pierre, qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette entrée en matière ? On savait que ça serait facile face à Norwich, mais qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe de Liverpool ?
Eh ben, j'ai retrouvé la même équipe que j'avais laissée la saison dernière, donc même philosophie de jeu. La même équipe aussi, bah, les mêmes joueurs sauf Gomez qui remplace Matip, en espérant que Gomez se blesse pas beaucoup cette année. Et quand vous parliez un peu des errements défensifs en première mi-temps, je pense que Van Dijk, il faut qu'il réapprenne à jouer avec Gomez, en fait. Parce qu'il a carrément quasiment pas joué avec l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a des automatismes à trouver entre les quatre de derrière. Et bon, après, de toute façon, on sait comment joue Liverpool. Origi aura plus de temps de jeu cette année, comme il, quand même, quand il rentre, il est décisif, il jouera plus. Donc, dans la rotation, ça permettra peut-être de reposer un peu Salah, Mané et Firmino. Mmh. Et vous disiez, City, il y aura un nouveau joueur avec De Bruyne. Faut pas oublier qu'à Liverpool, il y aura un nouveau joueur aussi avec Oxlade.
Oui, c'est vrai. Rappelle, c'est vrai.
Avant qu'il se pète les croisés l'année où ils vont en finale contre le Real, il était monstrueux, Oxlade aussi.
Et puis peut-être espérer que Naby Keita fasse une saison pleine, même si il est blessé là.
Pardon ?
Peut-être espérer qu'enfin Naby Keita, sur qui vous aviez beaucoup investi l'année dernière, fasse une vraie saison pleine cette année.
Oui. Bah lui, pareil. L'année dernière, il a eu quelques blessures et tout, et on sent que
c'est un bon joueur.
C'est un joueur qui peut vraiment.
Il est dans le moule.
Il est dans le moule club sur le milieu de terrain, quoi.
Ouais. Pierre. Toi qui as vu tout le match de façon assez attentive, d'après ce que j'ai compris, est-ce que tu veux dire que le futur Ballon d'Or derrière, il a été un peu moins bon que l'an dernier ?
Van Dijk ?
Ouais, bien sûr.
Non, je pense que c'est Gomez, moi, Gomez qui a été un peu moins bon. Et du coup, faut qu'il s'adapte entre eux, quoi.
Ok. Voilà. Parce qu'il a mis un beau but, Van Dijk. Franchement, le but intelligent.
Si je veux être chauvin, ouais, Van Dijk, faut qu'il soit Ballon d'Or. Mais comme Varane l'a pas eu l'année dernière.
Oh.
Je pense que Van Dijk.
On va pas engager ce dossier. Voilà.
Et Cristiano,
voilà.
C'est clair. Exactement, Pierre.
Bien dit. Fou complètement.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas,
ça sera Hiroki Saka, le Ballon d'Or.
D'être passé dans l'after et Liverpool qui affrontera lors de la deuxième journée Southampton et la troisième journée Liverpool Arsenal. Justement, on va parler un petit peu d'Arsenal parce que Arsenal est avec Tottenham, des équipes qui a le plus recruté cette saison. Arsenal, Julien, 152 millions d'euros dépensés. Pépé, Tierney, un arrière-gauche qui vient de Celtic. Ouais. David Luiz dans les dernières heures du mercato. Encore Ceballos qui a été prêté. Voilà, clairement, interdiction de ne pas accrocher une place en Ligue des Champions cette saison pour Arsenal.
Oui, bien sûr, c'est l'objectif hein, de finir dans ces quatre premiers. Financièrement, ils en auront vraiment besoin l'année prochaine. Ils ont une grosse masse salariale qui est encore plus grosse maintenant avec toutes ces arrivées-là aussi. Et puis après, il va falloir aussi payer hein, les échelonnements des transferts de Pépé notamment et de Tierney aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment besoin d'une qualification en Ligue des Champions. C'est l'objectif. Ils ont sur le papier en tout cas l'effectif pour, il n'y a aucun souci. Après, ce sera Unai Emery, comme on en parlait hier soir dans l'émission, ce sera à lui de trouver la bonne formule pour faire jouer Pépé, Aubameyang et Lacazette par exemple dans le meilleur système pour tirer le meilleur de chacun.
Avec Ceballos pour donner
le ballon. Un David Luiz aussi derrière qui, on le sait maintenant, est beaucoup plus à l'aise dans une défense à 3, dans ce rôle de libéro. Il a simplement à couper les trajectoires un petit peu plus que dans une défense à 4 où il souffre énormément dans les 1 contre 1 notamment. Donc il va falloir vraiment trouver la bonne formule et ce sera à Emery de le faire.
Mais ça va jouer comment, Julien ?
C'est une équipe vraiment séduisante.
Toi, tu penses que ça va jouer comment ?
C'est la question.
3-5-2 ?
Moi, le problème du 3-5-2, c'est que c'est un système déjà qui est fait pour Mesut Ozil. Mais le 3-4-3, ça veut dire que tu mets aussi Aubameyang sur un côté. Et je suis pas persuadé que le 3-4-3, ça plaise énormément à Nicolas Pépé.
Ouais.
Parce qu'il aura son joueur de couloir droit dans ses pattes beaucoup plus qu'un arrière-droit normal qui lui apporte un soutien, mais qui joue pas aussi haut qu'un joueur en 3-4-3. Donc ce sera vraiment intéressant. Mais la défense à 3 pour David Luiz, elle est quasiment indispensable presque. Parce que dans une défense à 4, c'est vrai que tu sais pas comment il va défendre et il pourrait faire des erreurs assez
alors fréquemment. Alors, ça sera Arsenal à Newcastle dimanche à 15h. Il y a Tottenham, dont on n'a pas parlé quand même, finaliste l'an dernier de la Ligue des Champions, qui a beaucoup recruté pour le coup. Ouais. Après avoir fait des saisons sans recrutement, là il y a eu 114 millions de dépensés, dont 60 millions sur Ndombele. Il y a aussi Lo Celso qui a été prêté. Tottenham se renforce en vue du titre, là encore.
En vue de se rapprocher le plus possible. Ouais. Je pense qu'ils sont encore derrière City et Liverpool, mais c'est vrai que la façon dont ils se sont renforcés avec Ndombele, avec Lo Celso et aussi avec le jeune Ryan Sessegnon, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'ils ont aussi gardé toute l'ossature de la saison dernière qu'ils avaient emmené en finale de Ligue des Champions, qu'ils a fait terminer sur les quatre dernières années entre la deuxième et la quatrième place. Donc c'est vrai que c'est encore une fois sur le papier c'est impressionnant. Après, il faut voir comment Pochettino va faire jouer tout le monde, comment Lo Celso va s'adapter à l'Angleterre, à sa nouvelle équipe, comment Ndombele va s'adapter aussi au jeu anglais, au côté physique, à l'intensité du football anglais. Ça va être vraiment intéressant, mais sur le papier, c'est vrai que C'est assez impressionnant et tu peux penser que s'ils arrivent à trouver la constance et notamment pas perdre des points contre les petites équipes où parfois ils sont peut-être pas assez concentrés ou peut-être ils prennent le match un petit peu à la légère, ça va être intéressant s'ils trouvent cette constance et qu'ils peuvent enchaîner les bons résultats.
Alors Tottenham Aston Villa demain à 18h30 et puis le choc de cette première journée, il y en a déjà un, c'est Manchester United face à Chelsea à 17h30 dimanche, à suivre évidemment sur RMC et sur RMC Sport à la télé. Chelsea n'a pas pu recruter. Donc on les voit un petit peu en dessous forcément, avec en plus les débuts de Frank Lampard en tant que nouvel entraîneur. Et du côté de Manchester, on a beaucoup recruté en défense, surtout avec ce Maguire qui a été recruté pour 87 millions d'euros.
Ouais, moi pour moi, Chelsea et Manchester, c'est quand même les, entre guillemets, les deux perdants de ce mercato. Oui. Chelsea parce qu'ils n'ont pas pu recruter. Et pour moi, mais bon, je l'ai assez dit ces derniers jours, mais Manchester qui reste juste sur sa lignée des derniers mercato, qui est un peu incompréhensible.
Qui a perdu Lukaku, qui a rejoint quand même pour une grosse somme d'argent, pour 80 remplacé. Millions d'euros l'Inter Milan. C'est Martial qui a pris le numéro 9. D'ailleurs, on a une petite image sur MC Sport. C'est lui qui, a priori, en tout cas, dans l'esprit peut-être de Solskjaer, va remplacer Lukaku à la pointe de l'attaque. Julien.
Non, ce sera Rashford, mais on le savait que ce serait que Martial prenne le numéro 9. C'est bien pour lui, je pense que ce sera Rashford qui commencera dans l'axe.
Tu vois pas Martial avançante, non, du coup.
Non, je pense que la priorité Rashford a joué la majeure partie de la saison dernière au poste d'avant-centre aussi. Ouais. Et je vois pas pourquoi maintenant que Lukaku est parti, ce serait pas Rashford, qui est un enfant du club en plus, qui est anglais et
qui est un bon joueur en plus.
Et qui est très très fort aussi. Qui est très très fort en plus. Après, c'est vrai que l'absence de remplacement de Lukaku étonne beaucoup ici en Angleterre.
T'as du monde devant quand même.
Les supporters de Manchester United. T'as du monde. Si Rashford se blesse, il faut que tu fasses passer Martial dans l'axe, effectivement. Ouais. Ou je suis pas persuadé que ce soit.
Lingard.
Lingard, il peut pas jouer numéro 9.
Non, mais tu peux. Alexis Sanchez, quelque chose, ouais.
Ouais, tu peux, mais t'as perdu un pur buteur, un pur avant-centre, un numéro 9 qui par exemple te permet de garder le ballon, même si ses contrôles sont souvent à l'américaine. Mais ça reste quand même un vrai numéro 9. Okay. Les autres, c'est, tu vois, à part Rashford, c'est pas des numéros 9.
Merci beaucoup, Julien. On aura l'occasion d'en parler dès demain. D'ailleurs, dans l'after, tu seras avec nous, Julien, avec Thomas Desson, d'ailleurs, qui présentera l'after pour parler de Manchester City qui joue donc à West Ham demain 13h30 et Tottenham Aston Villa à 18h30. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci, François. Et c'était un plaisir. Grosse dédicace à Alexander et c'était un vrai plaisir aussi.
On se retrouvera peut-être vendredi prochain. Je sais pas si t'es sur le planning. T'as vu ton planning?
Le week-end, c'est vendredi, samedi.
Et voilà, parfait. Kevin, merci encore d'avoir passé ces 4 heures avec moi. C'est pas facile.
Grand plaisir.
Bravo, Kevin.
Non, c'était parfait. Et moi, j'ai réussi à te supporter aussi, donc c'était parfait.
C'est parfait.
Merci beaucoup. On se retrouve demain, évidemment, sur RMC pour le multiplex. La première journée, ça continue à suivre en direct et en intégralité tous les matchs sur RMC, bien sûr. Bonne soirée à tous. Bonne nuit.
RMC, l'After Foot.